L'onde du bois, une chronique de Lionel Ripaud.
Bonjour Lionel.
Et bonjour Maline.
Merci d'être avec nous aujourd'hui, c'est la 14e de l'onde du bois. De quoi on va parler ?
Eh bien, chères auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui je vous propose qu'on parle d'eau. Et on peut dire qu'ici en Corrèze, on en connaît un rayon sur l'eau. Surtout celle du ciel, et c'est pas la météo qui me fera mentir. Comme promis, on va continuer à explorer les interactions des éléments avec la forêt. Et aujourd'hui, on se liquéfie littéralement pour plonger sous forme de gouttes dans une des 1000 sources du plateau afin d'effectuer le grand voyage du cycle de l'eau et comprendre l'importance que les forêts y jouent. Les forêts ont un rôle non négligeable dans le cycle de l'eau car leurs actions sur l'importance et la répartition des précipitations arrivant au sol, la dynamique de l'eau dans le sol et les quantités d'eau rejetées sous forme de vapeur dans l'atmosphère. De plus, la forêt joue un rôle primordial en matière de préservation de la qualité de l'eau et pour en réguler l'écoulement. Donc voilà, parlons de l'eau en forêt.
Alors pour commencer, on peut dire que l'eau est indispensable à la vie. Partout où il y a de l'eau, il y a de la vie. Est-ce que tu peux rapidement nous resituer son importance pour la vie d'un arbre ?
Eh bien, l'eau est le constituant fondamental de la matière organique. La teneur en eau des tissus végétaux représente jusqu'à 90% de leur poids frais, composant essentiel à la photosynthèse. L'eau est aussi impliquée dans de nombreux processus physiologiques. Croissance, transport d'éléments nutritifs. En fait, les arbres puisent l'eau dans le sol par leur système racinaire, vous en souvenez, on en avait parlé avec les arbres, puis l'acheminent jusqu'aux feuilles d'où elle s'échappe dans l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau. Ce flux d'eau remplit plusieurs fonctions essentielles à la vie de l'arbre, permettant entre autres l'apport aux parties aériennes des éléments nutritifs puisés dans le sol ou synthétisés par les racines. Si aujourd'hui les forestiers s'inquiètent du réchauffement climatique, c'est surtout sous forme de stress hydrique et d'assèchement des réserves en eau des sols et des végétaux que notre préoccupation se situe. Cela entraîne la mort des arbres. Pour mieux comprendre comment le manque d'eau entraîne la mort d'un arbre, faites l'essai en aspirant un fond d'eau avec une paille. Les bulles d'air limitent l'ascension de l'eau et vont progressivement ralentir la circulation de l'eau dans les vaisseaux pour finalement former une embolie gazeuse. Cela peut prendre plusieurs années car chaque année, le verre se vide plus vite. On assiste progressivement à la disparition de certaines espèces fortement hygrophiles et hydrophiles. Donc ça veut dire hygrophile, besoin d'humidité permanente dans l'air, et hydrophile, besoin d'eau dans le sol. Tels que le sapin de Vancouver, le tsuga hétérophile, les hêtraies de plaine, donc les peuplements de hêtres. Aujourd'hui, ces peuplements disparaissent les uns après les autres en étant remplacés par des essences plus tolérantes aux conditions de plus en plus continentales, voire méridionales, comme le pin laricio, chêne Cécile et châtaignier.
Alors tu avais déjà parlé de l'eau dans tes précédentes chroniques, notamment à travers la petite leçon symbolique de l'enfant et de la source, je pense qu'on s'en souvient tous, qui évoquait justement le cycle de l'eau. Est-ce que tu peux nous en reparler de ce cycle de l'eau en forêt ?
Oui, alors un peu plus techniquement, les arbres agissent comme des véritables pompes à eau qui absorbent l'eau des sols forestiers. Par la suite, arbres et plantes transpirent 95% de cette eau et n'en gardent que 5%. Pour leur propre croissance. Les sols des écosystèmes forestiers transpirent également l'eau qui s'évapore dans l'atmosphère. Combiné, l'évaporation du sol et la transpiration des plantes créent un phénomène unique dit d'évapotranspiration. C'est ce qui permet de réguler le cycle hydrique. Les arbres renvoient dans l'atmosphère des tonnes de vapeur d'eau. On estime à 13 milliards de mètres cubes d'eau transpirée par la forêt française chaque année, qui, grâce à des composants organiques volatiles, propres à chaque essence forestière. Alors, ces composés organiques volatiles proviennent des arbres. Ils sont appelés aussi des coves. Donc, c'est des acides gras, des esters, des alcools. Et donc, ces coves, ils partent dans l'atmosphère, captent l'eau, l'agglomèrent, se chargent en eau et retombent sur la forêt. On peut dire que la forêt provoque elle-même les précipitations qui vont l'alimenter en eau. C'est vraiment magique ce cycle de l'eau. Et inutile de dire que le maintien des forêts en place permet son bon fonctionnement.
Alors moi j'ai déjà entendu dire que grâce à la forêt, l'eau est filtrée et peut ainsi être dépolluée et donc protéger les sols.
Ouais, tout à fait Maëline. Cette absorption de l'eau en forêt, 6 fois supérieure à celle d'une simple parcelle d'herbe de surface égale, permet de filtrer l'eau, de la purifier. En effet, dans les eaux issues de la forêt, les concentrations en nitrates et en produits phytosanitaires sont considérablement réduites. Moins de 5 mg par litre pour les nitrates. En absorbant de forts volumes d'eau qu'elle restitue progressivement, la forêt joue également un rôle de tampon qui permet de limiter les phénomènes d'érosion qui peuvent provoquer des crues et des glissements de terrain. En outre, le couvert forestier protège le sol du vent et des fortes pluies, qui sont les deux principaux responsables de l'érosion et de la dégradation des sols.
Alors, je sais qu'en forêt, on trouve aussi des micro-habitats qui sont particulièrement riches en eau.
Et oui, on peut parler des étangs, des mares, des tourbières, des marais. Les zones humides en forêt sont nombreuses et les forestiers doivent absolument en prendre soin. Ils restent attentifs à leurs évolutions et engagent des programmes de travaux pour les préserver. Zone Natura 2000, Office français de la biodiversité, réalisation d'indices de biodiversité potentielle, simple reconnaissance des usagers et travailleurs de la forêt sont autant d'éléments qui permettent de maintenir les micro-écosystèmes liés à l'eau en forêt, ainsi que la préservation du cycle de l'eau.
Alors c'est l'ONF qui gère la forêt publique, hein, l'Office national des forêts, mais en ce qui concerne la propriété privée, c'est différent. Est-ce que tu peux nous dire où on en est au niveau de la prise, prise en compte de l'eau dans cette gestion des forêts privées ?
Eh bien l'ONF, oui, effectivement, anciennement eau et forêt, de 1291 à 1966, développe des accords cadres de coopération avec les agences ou offices de l'eau dans les régions. Et pour les propriétés privées, eh bien, je me souviens que lorsque j'ai commencé mes études en 2000, on parlait de gardes forestiers aussi bien dans le public que dans le privé. Aujourd'hui, dans la propriété privée, ce sont soit les propriétaires, soit les techniciens forestiers et gestionnaires forestiers qui gèrent leur forêt. Dans tous les cas, ils doivent passer par la case de la formation, soit diplômante, soit informative, pour adapter leurs actions sur les milieux forestiers et les ripisylves, forêts de rivière, dont ils sont responsables. Des guides de bonnes pratiques édités en partenariat avec les agences de l'eau, communautés de communes et interprofessions forestières existent, tels sylviculture et cours d'eau, la forêt protège votre eau et le rapport protéger et valoriser l'eau forestière. À vous, à nous, à tous les forestiers d'en prendre connaissance et de les lire pour mieux agir lors des travaux forestiers. Un lien également vous amènera vers un reportage très bien fait de Télé Mille Vaches qui est donc gestion en milieu humide. Vous les trouverez en pièce jointe, tous ces documents-là, au podcast en allant consulter les archives de l'Onde du Bois sur le site internet de Radio Vassivière.
Radiovassivière.com. Alors, si concrètement j'ai un cours d'eau qui passe sur ma propriété et que je veux faire une coupe d'amélioration dans ma forêt, comment ça se passe ?
Eh bien là, bon, c'est simple en théorie, mais tout projet d'exploitation à proximité immédiate d'un cours d'eau doit se réfléchir au plus tôt. Et là, c'est souvent un peu plus compliqué. Il faut vraiment bien anticiper. En fait, il y a trois possibilités différentes selon le cas de figure. En cas de franchissement d'un cours d'eau, donc il faut faire une déclaration d'intention 3 mois avant de franchir tout cours d'eau auprès de la direction départementale du travail, du département concerné. Même s'il existe un gué, une déclaration est à faire pour son utilisation. Une absence de réponse dans les 3 mois équivaut à un refus. En cas de travail à proximité d'un cours d'eau avec ou sans franchissement, il ne faut pas mettre les rémanents ou pieds dans les cours d'eau. Pour cela, il faudra câbler les arbres de bordure, ça peut s'avérer nécessaire. Il ne faudra pas stocker les grumes et billons dans le cours d'eau ou dans les fossés, bien sûr. Et dès qu'il y a présence de cours d'eau ou zone humide sur ou à proximité de la coupe, eh bien là, toute pollution d'un cours d'eau, que ce soit par franchissement sans structure adaptée ou par détérioration des berges ou par ravinement depuis des zones exploitées, est répréhensible. Là, il faut bien savoir que donc, bon, il n'y a pas forcément de déclaration spécifique, mais il faudra être vigilant sur la coupe.
Alors, oui, beaucoup de petits trucs techniques. Hein. En effet, un chantier, ça s'organise longtemps à l'avance. Il ne nous reste plus qu'à couler tranquillement vers la fin de cette chronique.
Et oui, déjà. Et pour conclure, rappelons que chaque année, il pleut près de 450 milliards de mètres cubes sur la France métropolitaine. Donc mètres cubes d'eau, hein, bien sûr, on parle d'eau. Soit un peu plus de 800 litres pardon, par mètre carré. C'est fabuleux. Et comme on considère qu'il faut 150 mètres cubes d'eau transpirée pour produire 1 mètre cube de bois, vu le volume total de bois produit chaque année, on parvient à un total environ de 13 milliards de mètres cubes d'eau transpirés par la forêt française chaque année. C'est dire la relation qui existe entre l'eau et la forêt. Même si ce chiffre n'en illustre qu'un des aspects, et cela nous dit que le milieu naturel, dans sa composition, son fonctionnement et sa productivité, dépend en effet intimement de l'abondance et de la répartition de l'eau dans la croissance de nos ressources forestières. Posons-nous alors cette question. vu la diminution des précipitations, hein, on prévoit de passer donc de 1300 mm par an sur le plateau de Mille Vaches en 2000 à 1000 mm par an en perspective en 2085. Eh bien, posons-nous cette question. Les forêts du plateau pourront-elles toujours produire autant de bois que ce que la filière attend ? Attendons, agissons et voyons.
Merci Lionel pour cette chronique sur l'eau. Tu continues la semaine prochaine, hein, cette aventure élémentaire, si je puis dire.
Aventure élémentaire avec le feu.
Le feu en forêt,
voilà,
oui.
Ce sera le dernier élément.
Et je crois que ces deux-là ne font pas bon ménage.
Eh bien, le feu, il peut être aussi intérieur. Quand on travaille beaucoup, on s'échauffe beaucoup. Il y a le feu en forêt, mais il y a le feu dans le forestier aussi.
Ah, très bien. Eh bien, on est curieux, on a hâte.
Ça donne chaud de travailler en forêt.
J'imagine.
Ça met en joie.
Ouais, ça met en joie, toujours. Quand on est passionné, ça met toujours en joie.
Et puis, il y a le feu des machines aussi, on pourra également en parler.
Le feu des machines et puis les incendies, effectivement, les méga-feux, etc. On en parlera la semaine prochaine.
Très bien, on te quitte en musique, comme et d'habitude, voilà. Sur un morceau que tu as choisi.
Alors là, je vous propose d'écouter Mike Love, qui est vraiment très talentueux, qui est tout seul avec sa guitare et ses pédales d'effet, vous propose un reggae, Let It Rain.
Let it rain.
Wickedness away, so much sorrow, so much pain. Let the sun come out to shine.